Reconsolidation, la malléabilité de nos souvenirs. Quand on se rappelle un souvenir, quand on le fait remonter à la surface, on réactive la trace mnésique. L'électricité circule de nouveau dans le réseau de neurones, c'est comme ça que notre cerveau lit le souvenir, le décode. Le hic, c'est que le souvenir, du passé donc, devient poreux à ce qu'on vit au moment où on s'en rappelle, le présent. Si vous êtes très joyeux au moment où vous vous souvenez du souvenir, l'amygdale est activée. Elle active l'hippocampe et cette émotion positive se lie au souvenir. Le tout sera ré-encodé, puis reconsolidé avec l'émotion joyeuse incluse. Plus tard, il sera impossible de savoir si cette joie a été ajoutée a posteriori ou si elle était déjà présente lors de l'événement initial. Il se passe évidemment la même chose si vous êtes déprimé. Vous teintez tous vos souvenirs en noir, même ceux qui étaient joyeux à l'origine. C'est pour cela, par exemple, qu'au moment d'une rupture difficile, on a tendance à se refaire le film de notre relation par le prisme de notre émotion du moment. Si on déteste l'autre, si on est en colère, en se remémorant les souvenirs de couple, on y associera des émotions négatives. Et vous connaissez maintenant le pouvoir de nos émotions sur notre mémoire. Lors du stockage, les nuits suivantes, notre cerveau optera pour la consolidation des détails désagréables et effacera progressivement les agréables. À force de rumination, il pourrait effectivement ne plus rien rester de positif dans votre mémoire. Comment ai-je pu aimer cet homme ? Votre ex-conjoint et votre entourage ont sûrement des souvenirs différents des mêmes épisodes. Eux se rappellent des moments heureux. L'inverse est vrai aussi. On vient de se faire quitter et on est encore éperdument amoureux. Tous les souvenirs se teintent en rose. C'était la femme de votre vie et tout était formidable. En êtes-vous certain ? Demandez à vos proches de vous rafraîchir la mémoire. Même chose avec les souvenirs de famille ou entre amis, comme votre soirée. Tiens. À force d'entendre et de répéter que c'était trop bien, de raconter l'histoire en gonflant certaines parties, en ajoutant certains détails et en omettant d'autres aspects, on transforme peu à peu le souvenir initial. Un témoin plus neutre ou qui a mal vécu cette soirée vous contredira sûrement. La mémoire est donc hautement subjective. Elle n'imprime pas la réalité brute des faits, mais notre propre perception des événements teintés par nos émotions du moment. Puis, notre souvenir varie au fil des rappels et des reconsolidations, certaines parties étant amplifiées, d'autres oubliées ou transformées. Notre mémoire est donc extrêmement malléable, bien loin de l'image d'Épinal d'une mémoire immuable qui graverait nos souvenirs dans le marbre. Un autre exemple. Pourquoi les policiers et les juges ne considèrent pas les témoins visuels d'une fiabilité absolue ? Parce qu'on peut se créer des faux souvenirs. Vous assistez à un méfait, la nuit d'après et les suivantes, vous consolidez la scène. Une semaine plus tard, vous ouvrez le journal et voyez la photo du suspect numéro 1. Du coup, vous repensez à la scène. Vous réactivez ce souvenir, tout en lisant le journal qui retrace les faits connus à ce jour et en regardant la photo. Il est alors possible que vous ré-encodiez votre souvenir avec des détails lus dans l'article et la photo du suspect. Les nuits suivantes, tout cela se consolide et ne forme plus qu'un seul et même souvenir. Vous êtes absolument sûr d'avoir vu le suspect commettre le forfait et vous pouvez même raconter en toute bonne foi des détails auxquels vous n'avez pas assisté. Il est donc possible de créer de faux souvenirs, d'autant que notre cerveau ne les distingue pas des vrais. Il est de plus très sensible à la suggestion et il a horreur du vide. Quand des infos lui manquent, il les invente pour boucher les trous en se basant sur des connaissances ou croyances déjà acquises. Lisez par exemple un texte avec des lettres ou des mots manquants, votre cerveau les complétera automatiquement. Notre cerveau et notre mémoire sont donc facilement manipulables par autrui. Nous sommes particulièrement sensibles à la suggestion lorsque nous sommes sous hypnose, soumis à une pression sociale, lors d'un interrogatoire par exemple, ou fragilisés par le manque de sommeil, mais pas seulement. Avec les bonnes techniques, nous sommes tous manipulables, n'est-ce pas Fabien ?
Oh que oui ! C'est d'ailleurs quelque chose que les mentalistes et les magiciens exploitent. Nous appelons ça la parenthèse d'oubli. Si lors d'un numéro, votre attention n'a pas identifié l'importance d'un geste, alors il me suffira de vous parler quelques secondes en vous regardant dans les yeux pour que vous ne vous souveniez pas de l'importance de mes gestes. À l'inverse, il est arrivé que l'on me raconte l'un de mes numéros de spectacle en surévaluant complètement ce que j'avais fait. Le temps avait fait son travail et, à force de raconter joyeusement sa soirée, mon spectateur avait complètement embelli mon numéro. Mettons-nous d'accord quand même. Le spectacle était bon, mais à l'écouter, j'avais les pouvoirs de Charles Xavier dans les X-Men. Oui, Michel, chacun ses références, je n'ai pas trouvé de personnage similaire dans l'agence Tourisque.
Eh oh, Fabien, je connais aussi les X-Men.
Mais saviez-vous qu'il existe des faux souvenirs construits de toutes pièces? Un peu comme mon histoire d'anniversaire au début de l'ouvrage. On appelle ça des pseudo-mémoires ou des illusions mnésiques. Ces reconstructions sont généralement composées d'une multitude de détails, de souvenirs des sens, qui les rendent d'autant plus crédibles. Les travaux de la psychologue Elizabeth Loftus, psychologue cognitiviste américaine, ont démontré qu'il était possible d'implanter un souvenir dans la mémoire d'une personne ou d'un groupe de personnes. Cette action s'appelle l'interférence rétroactive. Théorisée depuis 1930, ce processus explique qu'un souvenir A, stocké dans votre mémoire, peut être perturbé et modifié par les souvenirs B et C. Il y a quelques années, le mentaliste anglais Derren Brown a réalisé une expérience sociologique sur un village entier. Il y a dans ce village la statue d'un chien, connu ou pas des habitants. Derren Brown veut leur implanter le souvenir selon lequel une légende est associée à cette statue. Tapoter la tête du chien porterait chance. Il envoie une équipe de journalistes, crédibles, armés de caméras, pour poser des questions aux habitants sur cette légende du chien qui porterait chance. Évidemment, personne ne connaît vraiment cette légende et les détails de cette statue, puisque c'est faux. 3 semaines plus tard, l'équipe est envoyée de nouveau sur place pour interviewer les habitants, beaucoup plus loquaces. Des détails sont donnés sur la façon de s'y prendre pour avoir de la chance, l'origine de la statue, les personnes à qui elle a porté chance. Vous pouvez même découvrir le témoignage d'un homme qui raconte, en toute sincérité, comment sa grand-mère lui contait cette histoire lorsqu'il était enfant. Les recherches en psychologie sur la question des faux souvenirs sont d'une importance majeure pour comprendre comment recueillir des témoignages dans les affaires criminelles sans en altérer involontairement la qualité.
Dans cette première partie sur les émotions, nous avons vu comment elles influencent nos souvenirs tout au long de leur cycle de vie. Encodage, stockage, récupération et reconsolidation. La plupart du temps, elles facilitent la mémorisation et l'apprentissage, mais dans certains cas extrêmes, elles ont l'effet inverse et perturbent gravement notre mémoire. Quand les émotions font dérailler la mémoire. Les souvenirs flash entre mémoire individuelle et collective. Il nous arrive à tous d'avoir des souvenirs extrêmement détaillés que nous n'oublierons jamais, d'événements publics traumatisants, par exemple les attentats du 11 septembre 2001 à New York ou du 13 novembre 2015 à Paris. Pour les plus âgés d'entre nous, plus de 20 ans après la destruction des tours jumelles, nous nous souvenons encore précisément de l'endroit où nous étions et de ce que nous faisions à ce moment-là. Quand nous n'avons pas été directement touchés par un attentat, s'en souvenir 2 décennies plus tard, comme si c'était hier, avec une foule de détails contextuels, est atypique. Francis Eustache, chercheur en neuropsychologie, parle de souvenirs flash. Nous l'avons vu précédemment, plus une émotion est forte, plus l'amygdale s'active, plus elle stimule l'hippocampe, mieux il encode le souvenir. La surprise, le choc, l'identification aux victimes, cela aurait pu être nous ou nos proches. La peur d'un bouleversement, combien d'entre nous ont cru au déclenchement d'une nouvelle guerre mondiale en 2001, provoque une charge émotionnelle tellement forte que l'amygdale suractive l'hippocampe et le pousse au maximum de ses capacités. Il enregistre alors précisément les éléments contextuels, où l'on est, quand c'est, comment ça s'est passé. Dès l'encodage, la trace mnésique est solide. Elle sera de plus en plus renforcée dans les jours et semaines suivantes, car nous allons abondamment en entendre parler et en parler nous-mêmes. Comme tous nos souvenirs épisodiques, celui-là peut aussi se transformer au fil du temps, mais il restera particulièrement vivace. Si la plupart d'entre nous en reste aux souvenirs flash, certains témoins, et surtout certaines victimes des attentats, basculent dans le trouble de stress post-traumatique. Le trouble de stress post-traumatique, une erreur d'encodage. Jusqu'à présent, nous avons vu les effets positifs des émotions sur la mémoire. Plus les émotions sont fortes, mieux on mémorise. Cela a tout de même une limite. Passé un certain seuil, nos émotions perturbent la mémorisation. Cela arrive lors d'un événement traumatique. Attentat, agression, accident, deuil ou toute situation vécue comme extrêmement violente. Cela peut aussi toucher les témoins impuissants de ce genre d'événement. Nous sommes alors dans le cadre du stress post-traumatique, largement étudié sur les soldats de retour d'un conflit et plus récemment à la suite des vagues d'attentats. Les troubles de la mémoire qui lui sont associés sont très spécifiques. Petit rappel, l'hippocampe encode les aspects contextuels d'un souvenir, comme la date et le lieu. Un souvenir traité par l'hippocampe est facilement récupérable de manière volontaire, pour peu qu'il ait été bien encodé, puis stocké. De son côté, l'amygdale, siège de nos émotions, encode les aspects émotionnels et sensoriels d'un souvenir. Ils ne sont pas restituables volontairement. Comme pour la Madeleine de Proust, ils surgissent brusquement lorsqu'un indice les rappelle. Les progrès de l'imagerie cérébrale ont permis aux chercheurs de détailler ce qui se passe dans le cerveau en cas de trouble de stress post-traumatique. Sous le coup d'un choc émotionnel, l'amygdale se suractive et inhibe partiellement les zones qui d'habitude tempèrent son expression. Les activités du cortex singulaire antérieur qui identifie et évalue les émotions et du cortex préfrontal qui module l'activité de l'amygdale baissent. Sans régulateur, l'amygdale s'emballe. Son effet sur l'hippocampe s'inverse alors. Elle l'inhibe partiellement. L'hippocampe, perturbé dans son fonctionnement, encode très mal les circonstances de lieu et de temps. La scène vécue est alors enregistrée de travers. D'un côté, perception et émotion sont trop encodées, prenant une place trop importante. De l'autre, le contexte est peu ou mal encodé. En temps normal, on se souvient du contexte dans lequel on a croisé un signal dangereux, par exemple, le bruit d'une arme à feu pendant la guerre du Vietnam. Quand le signal est encodé sans son contexte, de lieu, le Vietnam, et de temps, pendant la guerre, il fera réagir à chaque fois qu'il sera entendu, même hors contexte. Un tir entendu à la télévision dans son salon provoquera le même effet. Le moindre indice sensoriel, un bruit, une odeur, la vue d'un visage ou d'un objet, rappelle alors violemment le traumatisme initial. Mal encodé, le souvenir traumatique est mal stocké. Il ne passe pas par le processus de mémorisation qui finirait par le digérer, par le mettre à distance en le rangeant dans le passé. Il reste coincé dans le présent, sans cesse rappelé et sans cesse revécu avec la même intensité émotionnelle. La journée, ce sont des flashbacks et la nuit, des cauchemars. Pour échapper à cet enfer, le cerveau adopte souvent des comportements d'évitement d'un lieu, de certaines situations, mais aussi de certaines pensées. Isolement social, insomnie, addiction, dépression, envie suicidaire, etc. Tout pour oublier ce traumatisme qui hante le quotidien. Il est important de préciser que toutes les victimes d'agressions, de violences, d'attentats ou d'accidents ne développent pas de troubles de stress post-traumatique. Et parmi ces personnes, toutes ne le vivent pas de la même façon. Il peut intervenir tout de suite après le traumatisme ou des années plus tard et être plus ou moins prononcé. Il est aussi important de savoir qu'aujourd'hui, il existe des méthodes efficaces pour se débarrasser des souvenirs traumatiques. Un professionnel de la santé mentale, comme un psychiatre, vous guidera vers le traitement le mieux adapté à votre cas. Psychothérapie, prise de médicaments, EMDR, Eye Movement Desensibilization and Reprocessing, une thérapie qui repose sur le mouvement des yeux pendant que l'on se reconnecte à l'événement traumatisant, etc. Le principe sera souvent le même. Rappeler le souvenir, faire baisser la charge émotionnelle à l'aide d'un médicament ou d'une technique de relaxation, ré-encoder et restocker le souvenir avec la charge émotionnelle amoindrie, puis recommencer ainsi jusqu'à transformer le souvenir traumatique en souvenir tout court. On ne l'oublie pas, mais on en souffre beaucoup moins au quotidien. Avec le temps, il finira peut-être même par s'estomper.
Dans les cas moins douloureux que des souvenirs traumatiques, la programmation neurolinguistique, PNL, utilise également cette méthode appelée recadrage. Afin d'être clair, la PNL n'est pas une science. Elle ne fait pas partie de la psychologie non plus. Elle véhicule beaucoup de neuromythes, mais s'appuie parfois sur des éléments issus du monde scientifique. C'est le cas du recadrage. Cette technique consiste à revivre mentalement le souvenir ou à le raconter en y ajoutant une distanciation. Par exemple, en s'imaginant être extérieur à la scène et en baissant la charge émotionnelle grâce à des questions pertinentes reliant vos émotions au souvenir. Pas de médicaments ici, puisqu'ils ne sont utiles que dans le cadre de trauma. Exemple. Si vous avez l'impression que cette présentation que vous avez faite au bureau était nulle, que vous avez du mal à l'oublier, vous pourriez la revivre différemment, la penser différemment et vous poser des questions honnêtes telles que « Était-elle nulle à ce point ?» Recadrage émotionnel. « Toute la présentation était-elle ratée ?» Recadrage temporel. En vous répondant et en vous rejoignant la scène avec un état émotionnel plus neutre, vous allez changer vos croyances erronées sur ce souvenir.
Dans des cas encore plus rares, le traumatisme est tellement violent que le souvenir disparaît momentanément pour protéger notre intégrité mentale. On parle d'amnésie traumatique.